Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations. Noëlla Luzitu Kabambi.
La session spéciale du préliminaire de l'examen d'État édition 2024-2025 aura bel et bien lieu. Les questionnaires sont arrivés à Goma au Nord Kivu jeudi dernier, confirme l'inspecteur provincial principal de la province éducationnelle Nord Kivu. Avec son homologue du Sud Kivu, ils se sont rendus à Kinshasa pour récupérer ce matériel essentiel à la tenue de cette épreuve nationale. Joe Shortano, responsable de l'entreprise Mentecas, est l'invité de ce journal. Il va à la fin de cette édition expliquer comment les jeunes peuvent, à travers le numérique, créer de l'emploi, entreprendre et étendre leurs activités, même à partir des faibles moyens. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, les questionnaires pour la session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2024-2025 sont arrivés à Goma jeudi dernier. C'est l'inspecteur provincial principal de la province éducationnelle Nord Kivu qui l'a annoncé hier. Avec son homologue du Sud Kivu, ils se sont rendus à Kinshasa pour récupérer ce matériel essentiel. L'arrivée de ce colis sécurisé au bureau de l'Agence nationale de renseignement ANER dissipe les inquiétudes concernant la tenue de cette session spéciale. Le report du 7 mars dernier avait suscité une vive inquiétude parmi les élèves, les parents et les acteurs du secteur de l'éducation. Écoutons à ce sujet Sosten Mpanga, inspecteur provincial principal de la province éducationnelle du Nord Kivu 1.
Nous avons annulé de Kinshasa l'épreuve préliminaire pour les auteurs du DAC. Ce qui aura su effectivement qu'il y aura des évaluations certificatives pour nos enfants, puisque le préliminaire, c'est la première phase. Il y a la deuxième phase, c'est la recherche pour la dissertation. Et enfin, la troisième phase, c'est la session ordinaire. Tout ceci se suit. Les autres ont déjà passé l'examen. Ils ont passé l'épreuve préliminaire le 7 mars. Nous, il fallait un décalage puisque il y avait des participations participantes là. On n'était pas tellement sûr que tout le monde pouvait répondre au rendez-vous de cette épreuve. Ils n'ont pas donné la chance à tout le monde. On avait décalé la date de prestation pour la province éducationnelle du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu. Nous rassurons à ces candidats aussi qu'ils n'ont rien à craindre pour la prestation de cette épreuve.
Rappelons qu'au total, 619 candidats de trois provinces éducationnelles touchées par la crise sécuritaire, à savoir Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3, sont concernés par cette session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2024-2025. Au Sud Kivu, le fonctionnement des écoles dans la province est déplorable actuellement. C'est le constat du président provincial de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants de la RDC, Anapeko, au Sud Kivu. Augustin Batandi appelle le gouvernement central à rétablir la paix pour sauver l'avenir des enfants. On écoute Augustin Batandi, président de l'ANAPECO Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Kéline Kouté.
Le fonctionnement des écoles aujourd'hui dans notre province, c'est un peu déplorable. Nous pouvons dire que quelques écoles continuent à fonctionner là où l'AFCM 23 ont déjà récupéré, et dans les zones où il y a encore des combats dans des territoires et dans même dans les périphéries de Bukavu, certaines écoles ne fonctionnent pas. Et puis aussi il y a les écoles qui ont été détruites pendant la guerre vers Calais, Minova et partout ailleurs. Et donc vous comprenez que la situation humanitaire dans les écoles est déplorable. Ici chez nous à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, rien ne va vraiment, bien que certaines écoles continuent à étudier, mais comment les parents vont payer? Ainsi, nous lançons l'alerte au niveau du gouvernement de voir comment intervenir, sinon l'éducation de nos enfants est vraiment en danger, et cela c'est un grand problème pour l'avenir de la jeunesse.
Et puis à Kinshasa, plus de 2787 élèves vivant avec handicap bénéficient d'un encadrement scolaire des agents sociaux au sein de l'établissement scolaire Epelibanga dans la commune de Kinshasa. Parmi eux, 1205 ne disposant pas de capacité auditives, 1509 handicapés mentaux et 49 handicapés auditifs ou malentendants. En marge de la commémoration de la Journée mondiale du travail social, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza, a approché ses enfants vulnérables en guise de solidarité et d'encouragement du personnel qui prend soin de tous ses enfants vivant avec handicap. Billy Yvan Lutumba nous parle de cet établissement d'enseignement spécialisé dans ce reportage.
L'Epilibanga est érigée dans le site appelé Village Bondeko dans la commune de Kinshasa. Elle compte 4 cycles, notamment maternelle, primaire, professionnelle et secondaire. Pour amener les différentes catégories d'enfants sur le banc de l'école, le coordonnateur du centre Village Bondeko explique que ce sont les assistants sociaux qui font le porte-à-porte afin de convaincre leurs parents pour libérer leurs protégés aux fins de leur encadrement scolaire.
Vous voulez détruire une nation, commencez par détruire l'éducation. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas, grand merci au nom de tous les personnels de notre structure, de Village Bondeko, mais aussi au nom des enfants.
Le niveau maternel encadre deux types de catégories d'handicapés avec un programme mettant un accent sur la démutisation, un procédé basé sur des techniques visant à restaurer la capacité vocale chez l'enfant. Le second programme est orienté en faveur des handicapés mentaux pour une adaptation sociale. Les élèves du niveau primaire, où se trouvent de nombreux enfants sans aucune capacité auditive, suivent quant à eux un programme intégré axé sur la lecture labiale et la langue des signes. À leur côté sont aussi encadrés les élèves avec maladie mentale ou déficit intellectuel. Leur enseignement gravite autour des 4 secteurs spécifiques, en l'occurrence l'autonomie personnelle, la communication, la socialisation et l'occupation.
En Ituri, un convoi militaire de l'armée ougandaise UPDF est tombé samedi dans une embuscade tendue par des miliciens de la Codeco à Nyoka dans le territoire de Maragi. Des sources sécuritaires locales parlent d'un échange des tirs entre les deux parties qui a duré plusieurs heures, occasionnant un mouvement de la population. Pendant ce temps, un échange des tirs a été signalé encore dans la nuit de samedi à hier dimanche dans la cité de Bethlehem et à Fataki dans le territoire de Djougou. Compte rendu avec Ezekiel Mouzalia.
Plusieurs sources locales confirment un renfort militaire des troupes ougandaises en direction de Bethlehem après des affrontements samedi avec la milice Codeco dans la région des Fataki à 80 km de Bounia dans le territoire des Djougou. Les militaires ougandais ont fait face à une résistance farouche des miliciens à Nyoka dans le territoire de Mahagi, précisément vers Ngiri et Turbine à environ 10 km de Nyoka centre. 5 miliciens Codeco sont blessés tandis que du côté des UPDF, quelques munitions ont été emportées par les assaillants, confirment des sources coutumière locale. Cependant, des tweets citant des officiers de l'armée ougandaise évoquent un bilan de plus de 200 miliciens Codeco tués depuis le début de ces affrontements il y a quelques jours. Des informations difficiles à vérifier. Des combats ont encore repris la nuit dernière dans la cité de Bethlehem entre les deux parties. Pendant ces temps, de nombreux habitants demandent au gouvernement congolais d'intervenir pour faire arrêter cette hémorragie des violences qui implique un pays étranger contre un groupe armé local sur les sols congolais. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des autorités de l'état de siège en Ituri. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans le territoire de Bénin Nord Kivu, les deux groupes de miliciens qui sémaient la terreur dans le quartier Kamahoumé pendant plusieurs semaines se sont retirés de la zone. Selon la société civile du groupement Bassoir Amadiwe, cette décision a été prise après un dialogue organisé vendredi dernier avec les leaders de ces groupes armés, souvent en conflit pour le contrôle de la zone. Cette situation avait provoqué le déplacement de nombreuses populations vers des zones considérées comme plus sûres. Justin Kavalami, président de la société civile de Bassoir Amadiwe, appelle ainsi les jeunes à se désolidariser des groupes armés et invite les parents à conscientiser leurs enfants. Il s'exprime au téléphone de Guylaine Kassassia.
Nous pouvons dire que c'est la fin de la crise sécuritaire dans le groupement Bassoir Amadiwe, précisément dans les quartiers Kamahoumé. La crise était due à un affrontement entre deux groupes miliciens, les Wazalendo IPLC et les Wazalendo des FAR. Mais vendredi, nous avons procédé à une voie de dialogue des deux côtés. La population peut, sans aucune inquiétude, regagner les quartiers Kamahoumé. Parce que aujourd'hui ou demain, les voleurs peuvent aussi en profiter. Seulement, nous demandons à tous les jeunes du groupement Bassoa Madiwe de se désolidariser de tout groupe armé. Parce que l'objectif de la population dans le groupement Bassoa Madiwe est de vivre sans aucun groupe armé. À tous les parents de conscientiser leurs affaires. Donc, à ce moment que le quartier est désormais libre, à tous les services de sécurité, nous leur demandons chacun de faire ce qui lui concerne.
À Kalemi, le commandant du 22e groupement naval a procédé à la mise à flot vendredi de 10 embarcations sur le lac Tanganyika. L'objectif, selon lui, est de renforcer les patrouilles sur le lac Polamunanga.
Le lancement de ces embarcations motorisées et armées intervient après quelques mois de travaux techniques amorcés à la 221e base navale de Kalemi, rapporte les services de communication et d'information des forces armées. Le commandant du 22e groupement naval appelle les éléments de la force navale à une bonne gestion de ces vedettes. Le contre-amiral Luc Bakole Nyengele a donné des consignes à observer durant les patrouilles sur le lac Tanganyika. Il annonce aux patrouilleurs qu'ils devraient éviter des obstacles sur l'eau en conduisant ces embarcations, signalant que lors du lancement, une randonnée sur l'eau de plus de 45 km a été effectuée pour s'assurer du bon fonctionnement de ces matériels qui viennent d'être réhabilités. Cette action entre dans le cadre de la sécurisation de la province du Tanganyika et consiste aussi à rassurer la population, indique les services de communication et d'information des forces armées. Rappelons que les FRDC ont organisé une marche d'endurance dans la ville de Kalemi il y a quelques semaines.
Les habitants de Lubumbashi observent avec étonnement le retour des motocyclistes au centre-ville et qui vont au-delà des limites autorisées par l'autorité urbaine pour rendre fluide la circulation. Le nouveau maire rappelle aux uns et aux autres que la mesure interdisant aux taxis-motos d'opérer dans le centre-ville est toujours d'application et les concernés doivent s'y conformer. Jean Gando.
C'est une véritable anarchie qui règne au centre-ville de Lubumbashi. Chasser le naturel, il revient vite au galop. Les motocyclistes, qui pourtant sont interdits d'accès dans cet espace, reviennent en force. Interrogés, certains d'entre eux indiquent que cette mesure avait été prise par la maire adjointe qui assurait l'intérim du maire élu vice-gouverneur du Haut-Katanga. Et comme il y a un nouveau maire, cette interdiction tombe. C'est ainsi que, le vendredi dernier, les motocyclistes sont allés en masse rencontrer la nouvelle autorité urbaine à ces sujets. Patrick Afouimbi leur a souligné que cette mesure existait depuis longtemps et donc tout le monde devait la respecter. Visiblement, le maire de Lubumbashi a prêché dans le désert puisque sur le terrain, rien n'a changé, surtout aux heures vespérales. Le désordre autrefois décrié refait surface. Certains louchois rencontrés ce samedi dans la soirée au centre-ville dénoncent cet état des choses et indiquent que ce sont ceux qui sont appelés à faire appliquer cette interdiction qui ont failli à leur mission. D'après eux, il ne revient pas au maire de descendre dans la rue pour mettre la main sur les contrevenants. Entre-temps, Patrick Afouimbi s'est dit déterminé à remettre de l'ordre et à redorer le blason de la capitale du cuivre, terni par plusieurs antivaleurs. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
La province du Maniema se fixe comme objectif d'exporter une tonne d'or par an grâce à la présence à Kindu de DRC Gold Trading SA. Le gouverneur qui le dit met cependant en garde les agents tant de services techniques que les services d'ordre et de sécurité. Moussa Kabankoubi Moïse fait savoir que tout colis d'or qui sera retrouvé en état d'exportation sans passer par cette entreprise sera saisi sans aucune quelconque forme de procès. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a donc pas de traçabilité concernant l'or du Maniema. Cette situation devait impérativement changer dès aujourd'hui. L'objectif pour le Maniema étant d'arriver à exporter une tonne d'or par an, les mesures suivantes seront dorénavant être de stricte application. Primo, il est strictement interdit aux services d'ordre et de sécurité de se transformer en protecteur des trafiquants d'or ne passant pas par l'entreprise du portefeuille de l'État qui est DRC Gold Trading. Secondo, aucun gramme d'or de production artisanale ne peut être exporté à partir d'Imaniema sans passer par DRC Gold Trading. Tertio, les services techniques des mines doivent travailler dans un esprit de collaboration avec DRC Gold Trading. Ainsi, tout agent ou cadre, tant des services techniques des mines que celui des services d'ordre et de sécurité, qui violerait une des mesures édictées ci-dessus, se verra être sanctionné sévèrement.
Actualité internationale.
Merci à tous. Les premiers mots du pape François depuis le balcon de l'hôpital Gemelli. Le souverain pontife a quitté cette polyclinique de Rome hier dimanche 23 mars. Il a salué et béni la foule présente depuis le balcon du cinquième étage de cet hôpital. Une première apparition publique du Saint-Père après 5 semaines d'hospitalisation. Le pape, âgé de 88 ans, souffre d'une double pneumonie.
L'invité.
Joe Shortano, le responsable de l'entreprise Mentecasso, est notre invité. Il nous explique comment les jeunes peuvent créer de l'emploi, entreprendre et étendre leurs activités, même à partir des faibles moyens à travers le numérique. Joe Shortano s'entretient avec Jean Gandou.
Joe Shortano, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean.
Dites-nous, comment comptez-vous créer l'emploi, notamment pour les jeunes?
Bon, déjà, nous avons lancé une plateforme en ligne qui permet de mettre en relation les utilisateurs et les prestataires de services à proximité de chez eux. Et il y a beaucoup de travailleurs indépendants, de soudeurs, de mécaniciens, des gens qui œuvrent à leur compte et qui n'ont pas accès à un grand marché. La plateforme met à leur disposition cet écosystème qui leur permet de vendre leurs services à bien plus que de personnes qui sont autour d'eux.
Concrètement, ça s'est fait de quelle manière?
C'est très simple. Il suffit de taper sur Google, mentecasso.com, vous rentrez sur la plateforme, vous créez un compte selon vos objectifs, soit pour vendre des services ou pour acheter des services. Et c'est un processus qui ne dure que quelques secondes.
Est-ce que cela requiert au préalable une formation?
Pas forcément. Il y a déjà des tutos qui orientent à ce qu'ils veulent créer de compte. Il suffit d'avoir juste une compétence qui peut être utile pour quelqu'un et de vendre cette compétence sur la plateforme.
Et quels sont les domaines qui sont les plus privilégiés?
Nous avons beaucoup plus pensé au domaine de la construction, la maintenance, où nous voyons le mécanicien, automobiliste. Nous voyons même des personnes qui font les services d'entretien, nettoyage de maisons, de vitres, carroches et autres. Ce sont des personnes qui peuvent créer des comptes et vendre des services. Parce que la plupart des personnes dans notre milieu œuvrent dans ces multiples tâches-là. Mais beaucoup aussi plus pour des services en ligne à distance, tels que les programmeurs, informaticiens. Et si on a besoin d'un site web, besoin d'un conseil en marketing digital. Ce sont souvent ces services qui sont aussi très demandés en ligne et ce sont ces services qui sont mis en avant.
Mais où placez-vous l'agriculture?
C'est d'ailleurs pour ça que nous avons sur la plateforme un secteur clé de l'agriculture. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'agriculture, il est difficile de vendre ces services à distance. Là, ce sont des produits qu'on vend. Donc, on a pensé à un écosystème où on va permettre aux agriculteurs de créer leurs comptes, même si c'est déjà possible qu'ils peuvent créer leurs comptes et exposer leurs produits et les vendre, mais on voulait maintenant créer un espace qu'on appellerait un espace de troc. Donc, il peut exposer ses produits en vente. L'utilisateur qui se connecte pour acheter peut facilement acheter les services. Vous allez vous rendre compte quand vous êtes au niveau de Kamina, Kabongo, Kitenge, Kabinda, Mwenedito, il y a des maïs et de palmes qui pourrissent sur la route. Simplement parce qu'il n'y avait pas de marché où vendre. Et puisqu'il n'y avait pas cette facilité de les faire acheminer vers les endroits où il y a les besoins, c'était compliqué. Alors, la plateforme permet à ces personnes, où qu'elles soient, de pouvoir créer un compte et de vendre leurs produits. Ce qui permet de combler l'offre et la demande très facilement.
Quelles sont les conditions d'accès à la plateforme?
C'est gratuit. Vous créez un compte gratuitement. Vous commandez vos services gratuitement.
Ça veut dire autrement que vous accompagnez ceux qui sont sur la plateforme dans la manière de voir des potentiels partenaires.
C'est même ça le langage de la plateforme. L'égalité d'opportunités pour tous. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat sans rien. C'était en 2013. J'ai pas été parrainé par quelqu'un. J'ai lancé un projet. J'ai commencé à chercher les financements que j'avais jamais trouvé. Mais par contre, aujourd'hui, avec la venue de la technologie, du numérique, il est possible de se faire entendre, de se faire vendre sur un marché plus vaste où des gens viennent et choisissent de travailler librement avec quelqu'un.
Au départ, qu'est-ce qu'il faut avoir? Juste la connaissance ou de moyens?
Juste la connaissance. Si on sait déjà réparer une serrure d'une porte, venez sur la plateforme et vendez ces services. Ceux qui ont besoin qu'on répare la serrure, nous ferons en sorte qu'ils puissent vous commander les services.
Et comment vous assurez de la qualité, de la compétence de ceux qui doivent vendre leurs services?
Après avoir créé un compte, il y a un processus de vérification de compétences. Premièrement, on vérifie la vraie identité de la personne. Après ça, si la personne a un certificat qui atteste de ce qu'il vend comme service, il peut télécharger. Ce qui laisse le libre choix à l'utilisateur de constater qu'il travaille avec une personne personne vraie qui a soit vérifié ses compétences ou qui les a pas vérifiées, mais qui a chargé par exemple son portfolio d'images qui indique ce qu'il est en train de faire. Donc l'utilisateur est libre de décider de travailler avec lui. Nous avons pris une initiative avec notre partenaire KML Investissement pour la formation professionnelle. Vendre la formation professionnelle sur la plateforme, mais déjà pour ceux qui sont sur la plateforme, on crée de formations gratuites. Pas une formation de maîtrise de compétences, parce qu'on estime qu'ils ont déjà des compétences, mais une formation d'encadrement et de renforcement des capacités.
Joshua Tano, je vous remercie.
Merci, monsieur Jean.